There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatif, responsable de marque, directeur de plateforme technologique, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Fouad Hachani, qui est Brand Marketing and Content Manager au sein de Visa. Bonjour Fouad.
Bonjour.
Donc c'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. Donc voilà, de temps en temps, on a un petit plaisir d'avoir des invités chez l'annonceur, comme on dit. Donc là, une sacrée marque Visa. Mais je crois que tu n'as pas démarré comme ça. Tu étais plutôt dans le monde de l'agence et un créatif à la base. Donc en quelques mots, ton parcours, oui.
Alors mon parcours en quelques mots, pour sans faire deux heures, moi je suis tombé dans le monde du marketing et des médias un peu par hasard. J'ai un profil d'abord école de commerce, je suis tombé amoureux d'une discipline qui s'appelle l'intelligence économique. Mmh. J'ai commencé par là au ministère des Finances.
Ça rigole pas le début
ouais,
du podcast.
C'était pas fun, mais c'était très enrichissant parce que j'étais... au début de l'ère du social listening, en fait. Et donc, D'accord. On avait des outils, des machines de guerre, hein, des outils un peu militaires pour surveiller le web et faire la surveillance de l'image de la France à l'étranger. Mm-hmm. Donc, j'ai développé cette compétence pendant 4 ans. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai vu une entité qui m'avait démarché, qui s'appelait Vivaki à l'époque et qui s'appelle aujourd'hui Publicis Media.
Mm-hmm. Une petite agence qui démarre.
Petite agence. Et très sincèrement, je ne savais pas trop qui était derrière cette entité-là. Et en fait, j'ai mis un pied dedans pour justement commencer à surveiller le web, faire du social listening en opportunité de communication pour nos clients. Mmh. Et à l'époque, on était bien loin des millions d'interactions et de followers que certaines marques peuvent avoir.
Parce que là, on est à quelle année ? On est avant même les réseaux sociaux
médias ? On est en 2011.
D'accord, donc quelques années après Facebook.
Quoi. Ouais, alors c'est les premières années, les premiers mois des pages Facebook. Et à l'époque, c'était Performix qui est dans le groupe Publicis. Mmh. On gérait M&M's, donc qui était la plus grosse page Facebook en France. Et la problématique, c'était de savoir comment on pouvait traquer un peu les interactions et comment on pouvait se servir des commentaires pour être des opportunités de communication pour les marques. Donc, c'était vraiment le début du community management. Mmh. Mmh. Et donc, je suis arrivé dans ce fabuleux monde des agences médias très dynamique, très jeune, très... Très en proximité, et ça m'a séduit. Je me suis retrouvé dans mon élément et j'ai commencé par le social media, donc l'organique, et très rapidement je suis monté en compétence pour représenter l'agence. Donc c'était une agence qui s'appelle Moxie, qui a été fondée par qui existait déjà aux États-Unis et qui a été reprise par Thomas Jamet.
Oui. Dans le groupe Media Brands maintenant
qui est président, je crois, d'IPG. L'objectif, c'était d'aller pitcher les marques pour faire du brand content, des OP social media, faire le buzz à l'époque, hein, comme on le disait. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai eu une opportunité de bouger et le groupe m'a proposé de rester. On m'a demandé ce que je voulais faire et moi, je faisais pas de médias à l'époque. Et je trouvais ça curieux d'être dans un groupe média et de pas faire de médias, faire que de l'organique. Et c'est là où j'ai eu l'opportunité de créer la cellule opération spéciale au sein de Blue 449, qui est une super agence qui est l'agence qui m'a formé. Donc j'ai passé énormément de temps avec Pascal Criffaut, que je considère comme mon mentor aujourd'hui, qui est devenu un ami, mais qui a lancé l'agence, qui est aujourd'hui une super agence, une des références sur le marché, et qui m'a aussi, par la même occasion, appris à m'apprendre ce qu'est une idée. Ce qui est une idée média, qui n'est pas forcément commun dans les médias aujourd'hui.
Qui n'est pas une idée publicitaire à l'ancienne, mais une idée qui se déploie, qui s'exécute et qui se pousse sur tous les nouveaux canaux.
Je ne vais pas me faire beaucoup d'amis,
Vas-y, tu peux y aller, tu peux taper, c'est un podcast.
Mais en fait, j'ai remarqué, et ça je peux le dire avec le recul, qu'en agence média, on n'a pas forcément la culture de l'idée. Je m'explique. Quand on est au partenariat média, on bosse avec des partenaires médias et on va aller vendre des dispositifs un peu sur l'étagère et on va aller voir faire le tour des clients.
C'est toute la difficulté. Voilà. On est plus aval qu'amont, quoi.
Ouais. Et en fait, ce que Pascal m'a inculqué, c'est ce que j'essaie aussi de travailler aujourd'hui avec mes agences, c'est de quand même avoir un concept dès lors que l'occasion se présente. Et que quand bien même on va bosser avec un média partenaire, c'est pas de prendre l'offre du partenaire, mais c'est plutôt de travailler avec le partenaire média autour de l'idée et de traduire en fait avec les équipes éditoriales du média. Et ça donne beaucoup plus de sens, d'impact et d'efficacité. Ça, c'est ma conviction. J'en suis vraiment convaincu.
Ah bah tu prêches un convaincu. Voilà. Moi, c'est le storytelling, idée et l'histoire. Et pour moi, le contenu et la diffusion viennent quand même en binôme ou en numéro 2. Mais c'est d'abord qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on partage.
Quelle histoire on veut raconter. On doit aussi être au plus près du concept créatif. Et je crois moyen aux offres sur étagère qui peuvent être très puissantes mais qui peuvent être un peu qui peuvent amener un peu moins de sens et peut-être un peu moins visible auprès de l'audience et j'ai créé ce département là aujourd'hui c'est 10 personnes mais j'étais tout seul et j'ai eu une double difficulté, c'était que je ne connaissais pas le média et quand on arrive aux opérations spéciales il faut vendre du sponsoring télé. Il faut vendre de l'OPS radio, il faut vendre de l'influence, il faut connaître les régies, il faut connaître les principaux items, les principaux KPI par régie. Donc, on va aller parler GRP, on va aller parler impression, contact, ODV, voilà, plein de petits gros mots qu'on aime utiliser. Et en fait, je m'ouvre un peu comme ça, mais ça a été très dur pendant 9 mois parce que j'avais... à la fois un patron qui était très exigeant et qui avait une culture de l'idée très forte. Donc, pour aller le convaincre, c'était un challenge. Et aussi apprendre le métier, les médias. Et il y a eu un déclic sur une OP, sur une idée que je viens pitcher. Et en fait, voilà, c'est parti. J'ai compris ce qu'était ce principe d'idéation. Et ensuite, voilà, le pôle s'est développé et c'est aujourd'hui un des départements les plus importants.
Une belle page publicitaire et média content avant d'arriver chez Visa.
Ouais.
Et donc, c'est une belle transition que tu as fait parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours un move facile entre l'agence et le monde de l'annonceur. Donc, tu bascules ensuite chez Visa. Et je crois que ce n'était pas d'ailleurs prédéterminé, hein, le monde du finance ou du banque. Ça s'est plutôt présenté, je crois, par opportunité.
Ouais, en fait, les dernières années chez Publicis, j'ai participé au lancement de Publicis Sport qui m'a permis d'apprendre notre métier qui est la rédaction. Et j'étais concepteur, rédacteur à temps partiel. Et j'ai travaillé pour Visa, en fait. Et je travaillais pour Visa, c'était notre client chez Publicis Sport. Et j'ai découvert cette marque et effectivement le monde du paiement. Et c'est pas que c'est pas mon domaine privilégié ni ma passion, mais ça m'a permis de découvrir cette marque et ce que tout le sens qu'avait cette marque et toutes les actions qu'avait cette marque à travers leur partenariat dans le monde du sport, donc FIFA, Paris 2024.
Et de tout temps d'ailleurs, parce que Visa c'est finalement une des marques les plus associées
depuis 40 ans.
Alors sans faire tout le storytelling, mais pourquoi il y a eu cette historique? Bon, c'est une question un peu difficile, mais
ouais, c'est une question difficile parce que j'ai pas forcément j'ai pas ouvert les bouquins d'histoire de la marque. Néanmoins, il y a quand même un lien qui est assez évident, c'est que ces compétitions et ces manifestations sportives sont mondiales. Et tu dois te déplacer, tu consommes et tu as quand même ce trait d'union qui est Visa en fait.
Bah, c'est sûr que sans la carte, t'es un peu perdu. Voilà, quand tu vas dans un événement, sans la carte pour te déplacer, manger et les événements, c'est vrai que ça draine des dépenses. Et d'ailleurs, j'espère qu'il y aura un engouement à l'occasion de Paris 2024, qui est quand même pour la France, j'ai l'impression, c'est une grosse attente.
Ouais,
ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, Visa, donc vraiment une marque, tu le disais, pour laquelle tu as travaillé en tant que quand tu étais en agence. Et qui est une marque, donc c'est un bureau français. Tu as combien de personnes chez Visa?
On est à peu près 200.
200.
C'est un bureau qui se développe beaucoup. Déjà, moi, j'ai fêté mes un an il y a quelques jours chez Visa et il y a eu pas mal de nouvelles arrivées. Donc, il y a aussi la force d'attraction de Paris 2024 qui fait qu'il y a un besoin de développement, de pouvoir aussi travaille sur toutes les solutions de paiement, mais aussi surtout avoir la qualité de service nécessaire. Et du point de vue brand marketing, c'est aussi de pouvoir en tant que pays hôte être à la hauteur de l'événement et de pouvoir aussi proposer des dispositifs et un plan de com qui puisse vraiment raconter l'histoire, les engagements que qu'a Visa. Et ils sont très nombreux. Et ça, c'est aussi ce qu'on n'a pas forcément quand on ne connaît pas la marque. Mais voilà, on a depuis 2021 lancé Passe en Vous, qui est un véritable programme de communication qui va raconter toutes les actions de Visa dans le 93 à travers le partenariat Sport dans la Ville, qui est une association avec laquelle Visa est partenaire et qui va faire la promotion et l'insertion par le sport, en fait. Donc c'est une association nationale et ils ont des milliers de jeunes qui sont accompagnés avec des éducateurs et dont Visa est partenaire. Et on crée ces initiatives, ces rencontres avec nos athlètes. On crée des ateliers, on crée du mentoring avec eux. On va aussi inaugurer des stades qui vont permettre aussi à ces jeunes de pouvoir se dépenser et passer du bon temps. Et tout ce sens-là permet aussi à Visa de raconter ses engagements. Et c'est des engagements qui sont pleinement sincères. Je sais que beaucoup de marques ont des engagements et je peux vous témoigner qu'on a un engagement qui est fort et un enracinement qui est fort avec nos partenaires. Et dans le 93, pourquoi ? Parce que pas mal de
stars viennent du 9-3 quand même.
Alors oui, et surtout il y a pas mal de sites olympiques dans le 93 et l'objectif était aussi de pouvoir faire bénéficier à la population du 93 des retombées aussi des Jeux Olympiques et de pouvoir le passe en vous, c'est de se dire les Jeux Olympiques auront lieu chez vous, mais pas sans vous. C'est aussi de pouvoir les impliquer et de pouvoir leur permet de profiter pleinement de l'avènement de cette.
En tout cas, c'est bien, c'est du positif et je trouve ça évidemment fort que des marques, des entreprises jouent ce rôle sociétal qui est important aussi. Donc toi, tu es sur la partie brand content, évidemment marketing. Alors, en quelques mots, parce que en ce moment, j'essaie de faire un peu côté tuto pour les auditeurs. Ouais. Je l'ai fait avec Nicolas Schaffner. Lui, il était côté agence média.
Okay.
Donc, j'imagine dans une maison comme Visa, tu as quand même tous les guidelines US qui sont non négligeables. Il y a quand même une certaine autonomie. Comment tu vois cette partie, charting et toi, finalement, tu as l'attitude locale versus une marque aussi importante.
Ouais. C'est une très très bonne question. Je sais pas si je vais le faire en mode tuto.
Non, rapide parce que c'est des questions pas faciles.
Ouais,
non plus.
En fait, c'est comme pas mal de marques globales. On a un cadre à respecter et ça permet d'avoir du bon sens et de la consistance dans toutes nos communications. Le fait qu'on soit pays hôte va nous permettre d'avoir une latitude un peu plus large et c'est aussi ce qui est très intéressant chez Visa, c'est que on a une direction qui est qui a confiance au bureau français, mais qui est aussi très à cheval sur désolé pour l'anglicisme, mais la culturelle relevancy, la pertinence culturelle.
Ah oui, en fait, ça c'est clé. Le local first, comme on dit un peu.
C'est ça, et en fait, ça serait dommage et contre-productif de piloter ça
un peu trop loin. C'est malin parce que ceux qui l'ont fait à cette sauce, ils ont plutôt cartonné. Je pense à McDonald's notamment, qui est quand même un cas d'école sur la France, où ils ont vraiment adapté le concept au côté francisé, et c'est important. Ça.
C'est ce qu'on va rechercher, en tout cas. C'est l'ambition. C'est aussi pour ça qu'on est très teinté local, qu'on a pas mal d'initiatives en local aussi. Et c'est toute la force, j'ai envie de dire, de cette marque-là qui a envie d'être. J'aime bien aussi dire ça, c'est que aujourd'hui les audiences sont un détecteur à bullshit. Et en fait, on peut assez rapidement voir si une marque est sincère dans son discours, dans ce qu'elle dit. Et en fait, en étant pertinent et en étant plus près de la pertinence culturelle, on a moins de chances de se tromper.
C'était évident. Son école du social listening qui était tes débuts, d'écouter ce qui revient du public.
C'est l'expérience aussi. Je ne suis pas un vieux de la vieille, mais c'est aussi qu'on va mesurer les campagnes, qu'on se frotte un peu au test conso, etc. C'est le juge de paix. Et, Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les mois à venir.
Alors, côté en rapide sur le côté marché, parce qu'après, on ira dans la partie fun, bien sûr, des contents, des campagnes et tout. Mais alors, on avait reçu le DG d'Hello Bank, donc le bancaire, ouais. On est un peu rentré dedans.
Bien sûr.
Mais en termes d'enjeux marché, professionnel, particulier, qu'est-ce qui se joue sur un visa finalement en quelques mots, hein, parce qu'on ne va pas faire toute la masterclass sur l'univers du bancaire et des cartes bleues, mais en gros, qu'est-ce que tu trouvais intéressant à raconter là-dessus aujourd'hui ?
Encore une fois, c'est très, très subjectif et c'est lié à mes missions. L'objectif Visa, tout le monde connaît en fait. C'est à la fois bien parce qu'on n'a pas besoin de faire la noto de la marque. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de la pédagogie sur ce qu'est Visa en fait. Mm-hmm. Une technologie de paiement qui va permettre... à toi de payer et à la personne que tu as en face d'être payé. Mm-hmm. C'est tout ce... Je ne sais pas si je peux dire ça, mais pour moi, c'est comme un réseau social, en fait. Mm-hmm. Tu vois, on est un réseau social, c'est-à-dire qu'on permet cette connexion quand tu vas au cinéma et que tu as envie de prendre du bon temps.
Ben, c'est le trait d'union, tu as raison.
C'est un trait d'union. Donc, moi, j'aime bien cette image-là parce que alors oui, elle est poétique, elle est assez idyllique, mais c'est une réalité. On connecte les gens, en fait, que ce soit pour des expériences, pour les achats du quotidien. On est une marque du quotidien, et donc on a aussi vocation à raconter ce qu'on fait. Mmh.
Donc, très proche des gens, on le sent. Hein. T'es très, finalement, ultra... On a parlé diversité, mais il y a quand même une proximité forte.
C'est le boulot. C'est le boulot qu'on est en train de faire, que je suis en train de faire depuis mon arrivée. Et c'est aussi ça qui est passionnant, très sincèrement. C'est pas évident. Parce qu'on a quand même, parfois aussi dans le monde de la finance, de la banque, des paiements, c'est un peu froid, c'est un peu lointain pour l'audience.
Oui, c'est pas une image forcément la plus chaleureuse à la base.
Mais si vous regardez ce qu'on a fait cet été, on a une communication qui a de l'ambition et qui est décalée dans la mesure où on a fait un brand movie clip avec. Un track interprété par Prince Wally, donc un rap en fait.
Ah bien.
Donc voilà, on prend des risques. Et c'est aussi
un
ça.
Un peu bizarre. Audacieux. On sent que t'es un peu audacieux dans la communication.
Il faut de l'audace, il faut savoir prendre des risques, il faut aussi être pertinent dans le marketing et dans la promesse et dans les RTB et tout ce beau langage qu'on maîtrise au quotidien. Mais pour moi, on fait aussi ce métier pour prendre des risques. Et c'est ça qui est intéressant.
Bah, on comprend mieux pourquoi tu viens. Ils ont pris un créatif qui vient de la pub. Là, ça va, tout ton bagage va te servir évidemment pour Visa. Et la petite question quand même, dans l'ADN de ce qui caractériserait par rapport aux autres marques, on va pas les citer, hein, mais de cet univers, tu dirais toi ce qui t'a la petite différence que t'as senti toi chez Visa finalement par rapport à l'autre écosystème du bancaire, dans les cartes, etc.
En fait, on travaille très sincèrement, les banques sont nos clients, donc on travaille avec les banques. Donc on a besoin aussi d'avoir de la cohérence avec nos clients. Donc on va aussi travailler des systèmes de communication avec nos clients. Mmh. Après, sur la marque en tant que telle, ce qui va différencier, c'est qu'on va se nourrir, encore une fois, je le répète, mais de ce qu'est la France d'aujourd'hui, de ce qu'est... De ce pouls, on va prendre le pouls un peu de ce qui se passe en sociologie dans l'écosystème français.
C'est ce côté local, local touch, on sent.
C'est ça, et puis on va aussi essayer de travailler avec les marques de proximité parce que c'est aussi un écosystème qui est important. Alors oui, on est une marque américaine, c'est vrai, mais ça ne nous empêche pas de travailler avec le tissu local, ça ne nous empêche pas de travailler en local, ça ne nous empêche pas d'avoir des initiatives en faveur du local. Donc c'est cette teinte que je vois, que j'apprécie, qui est impulsée aussi par la direction.
Bon, bah super. Alors justement, on arrive sur le content management, qui est quand même toute ta partie, nous, qui recoupe avec l'Entertainment Lab, parce que moi j'ai créé ce podcast finalement pour ce sujet des formats, des contenus, du storytelling. Donc là, c'est vraiment ta partie je dirais que tu as acquise aussi en agence. Qu'est-ce que tu trouves intéressant à mentionner ? Alors, je sais que tu as fait déjà des OP, hein, une avec Sopress, donc tu es vraiment dans cette veine brand content. Toi, qu'est-ce que tu as aimé faire déjà et qu'est-ce que tu trouves intéressant dans tous ces nouveaux formats qui arrivent ?
Alors, moi, ce que j'aimais faire en allant voir mon client en agence, c'était de le provoquer. En fait,
T'aurais pu bosser chez Buzzman, toi, non? Tu l'as rencontré, le shérif, ou pas?
Ouais. Alors non, je le connais évidemment de nom,
mais réputation,
mais
c'est un peu son école, quoi.
Ouais, alors j'ai eu la chance de faire du média et du brand content, mais même en média, en fait, on venait avec un parti pris
fort, quoi.
Fort, qui avait le mérite de créer de la discussion avec le client. Et en fait, on peut se tromper, on n'a jamais 100% raison, et c'est aussi la beauté du métier. Mais sur les idées, sur les propositions de brand content, en fait, il y avait toujours matière à ramener la petite idée un peu out of the box qui venait poser question, qui venait un peu perturber, qui disait « mais attendez, c'est pas ça que je vous ai demandé ».
Oui, ça challenge.
Mais ça... en fait, ça crée la discussion et ça crée du lien entre, les deux interlocuteurs qui se parlent, en fait, qui sont client agence ou enfin annonceur agence, et c'est aussi pour ça et j'aime beaucoup. Alors cette OP n'est pas le modèle de réussite, mais elle a énormément de crédit dans mon cœur. C'est effectivement ce que tu mentionnais, c'était Dada. En fait, c'était pour PMU. Donc PMU avait un gros challenge sur les millennials, parce que voilà, il y avait plein de marques qui venaient dans l'écosystème, qui avait des langages très urbains, et en fait une marque comme PMU et les sports hippiques a été un peu en danger, et ils avaient besoin de séduire ces millions là, et on est arrivé avec une idée qui s'appelait Dada. C'était un trimestriel qui parlait des sports hippiques qu'on a lancé avec Sopress, avec
Franck
Hannes.
D'accord.
Et c'était un objet. On est arrivé avec un objet qui permettait de raconter un peu ce qu'était le sport hippique, alors à travers ces belles histoires, mais aussi des idées, des anecdotes un peu plus sombres, un peu plus perturbantes. Et ça a permis, en fait, de faire découvrir le sport hippique par un autre prisme que le PMU du coin où on va faire ses courses.
Sympa, ça. Tu distribuais où le magazine?
En kiosque. On l'a fait ça vraiment en partenariat avec Sopress.
Sur combien d'épisodes t'as fait ça?
On a fait ça sur un an avec quatre épisodes. Ça avait le mérite d'exister, on a eu la confiance de PMU. Et pour moi, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. C'est de ne pas aller sortir l'énième sponsoring télé.
C'est bien que tu attaques, je trouve, sur un cas physique. Ouais, et pas justement le énième digital, social media. Finalement, tu reviens à du physique. Parce qu'on y revient, en fait. Les gens, ils aiment ça. Bah, le lien au papier et tout
on
ça.
On y revient, effectivement. On a aujourd'hui les 45 tours reviennent en force. On a un retour au vintage. Exactement.
Dans la mode, dans la tendance.
On vit une époque curieuse.
Oui, moins qu'on puisse dire.
Ouais, c'est ça. Avec un mélange de futur, d'intelligence artificielle, tenter de passer.
Oui, de nostalgie. D'ailleurs, on le voit avec le cinéma, les Babylones. Il y a quand même tout un. Bah, c'était parce que c'était aussi un monde un peu plus. Comment dire, cocon. Finalement,
exactement.
On est tellement aujourd'hui dans un truc un peu n'importe quoi qu'il y a une sorte de. D'être attaché à ces choses qui ont marqué, voilà, les 70s, 80s, 90s, c'est vrai que c'est des codes très forts, t'as raison, côté tendance.
Ouais, c'est ça, et d'arriver avec un objet, c'était une manière de bien répondre au brief et de créer cette perturbation. Et donc, c'est aussi pour ça que spontanément, je parle de cette OP-là. Après, d'autres OP, il y en a plein, mais c'est une des OP sur lesquelles j'ai le plus... J'ai plus de fierté parce qu'elle est assez originale.
C'était vendu, du coup, tu avais un prix.
C'était vendu, ça a été vendu.
Tu peux dire combien d'exemplaires tu as pu faire
Je ne vais pas te mentir, je ne sais plus. Mais c'était un sacré tirage. Et chapeau aussi à Franck Hannes qui nous a suivis, qui a pris des risques aussi.
Qu'on le salue, le fondateur de Sopress.
Ouais, qui nous a suivis. Et c'était audacieux. Et c'est aussi grâce à lui qu'on a pu sortir ça.
Top. Et tu valides tout l'édito? Tu as fait un peu le rédac chef, toi, le co-rédac chef?
Non, j'ai pas eu cette prétention-là, même si j'en mourais d'envie de participer. Non, mais après, c'était dire aussi. On fait confiance à la plume de Sopress, on savait aussi
vers qui on allait. Ils ont vraiment amené quelque chose. Tu lis beaucoup, t'es un lecteur assidu.
Je suis un lecteur de SoFoot, ouais.
SoFoot.
Passionné de foot, je fais du podcast RMC tous les jours. Enfin, voilà,
plus SoFoot que Society, ou un peu des deux?
Non, plus SoFoot que Society, ouais.
D'accord, ouais,
plus
SoFoot.
Ouais, okay. Ouais.
Okay. Donc ça, c'est un bon exemple que tu as donné sur le Sopress. Et après, sur quelques peut-être tendances ou exemples qui, toi, t'ont marqué de tout temps. Alors, je vois vraiment côté brand inspirant, brand content inspirant, on va dire.
Le live.
Oui.
le live qui...
L'essor du live.
L'essor du live qui était difficile il y a encore quelques années parce que tu faisais un live Facebook, le temps que t'étais live, t'avais une durée de latence, fallait brancher le média, fallait pousser, enfin... C'est oui, très compliqué.
On a un peu essuyé les plâtres voilà. Au départ. Oui.
Et avant de quitter Publicis, j'ai travaillé pour Biotherm.
Oui.
Et Biotherm qui est très engagé sur la vie sous-marine, la protection de la vie sous-marine, et qui avait deux égéries et un plongeur, Guillaume Néry, je crois.
Ok, Guillaume Néry.
Guillaume Néry. Et en fait, j'aurais proposé de faire le premier live sous-marin en apnée.
Pas mal,
avec
ça,
Guillaume Néry.
C'est génial,
pour
ça.
Explorer la faune sous-marine, en tout cas les espaces sous-marins, et qu'il puisse raconter son
grand
engagement.
Bleu, toi aussi, non?
Pas fan du Grand Bleu, mais fan de plongée. Je suis d'accord. Pas spécialiste. Et en fait,
quelle durée de live, justement, parce que ça
4 minutes en apnée.
Ah ouais, la pure apnée.
La pure apnée de Guillaume Néry.
Ah, c'est intéressant, ça.
En
caméra, en dispositif de shoot, ça devait être spécifique.
On a fait ça avec Brut.
D'accord.
C'est l'équipe de Brut qui nous ont suivis. Et donc, on a fait un live avec Guillaume Néry. Avant le live, pour raconter un peu ses engagements, parce qu'il a aussi une fondation.
Okay.
Pour la préservation des espaces sous-marins, et c'est aussi pour ça qu'il travaille avec Biotherm. Ensuite, on l'a suivi, pas moi, hein, mais on avait un caméraman qui le suivait pour justement avoir cette exploration en profondeur des zones préservées par son association. Et là, en fait, on avait... Enfin, franchement,
c'est
j'étais...
Bien, ça. T'as tourné où, ça?
On a tourné dans le sud, près de chez lui, là où ça faut.
C'est pas la ville, le Sanary, où je suis allé cet été, où Cousteau faisait sa plongée.
Non, c'était aux alentours de Nice.
Nice,
ouais,
d'accord.
C'était aux alentours de Nice.
Ça devait être beau, hein, sur la...
C'était... Franchement, alors moi, j'étais plus focus sur les images du live.
Ouais.
Et ça donnait des images incroyables. Les gens étaient assez subjugués aussi par cette initiative assez originale et aussi sensible. À ce qu'on racontait à travers Biotherm, parce qu'il faut savoir aussi que Biotherm a des packs 100% produits recyclés, etc. Donc c'était une manière intéressante d'interpeller aussi les gens, parce que de la sensibilisation, on en voit tous les jours, mais de la faire de cette manière-là,
très authentique. Et tu diffusais où ton live?
Sur Brut.
Ah, pur, avec le média. D'accord.
Avec le média.
D'accord. J'aime bien faire des couples, évidemment, comme tu étais en agence.
Il fallait de la puissance. Donc, il fallait aussi qu'on puisse aller chercher un média qui soit aussi en adéquation avec ces valeurs-là. Parce que Brut aussi, avec Brut Nature, tu as aussi cette adéquation-là. Bon, pour moi, Brut, c'est le plus naturel parce que tu avais cet alignement avec l'éditorial. Et ensuite, question-réponse avec Guillaume Néry, avec une personne de la fondation. Et...
Donc, tendance du live, ça, c'est un gros basique. Est-ce que tu vois comme une ou deux autres tendances que tu trouves intéressantes à mentionner? Désolé, je te cueille un petit peu.
C'est pas que j'aime pas le mot tendance, mais.
Ou ce qui, toi, te plaît, parce qu'en vrai, tendance, t'as raison, il y a un côté un peu sentencieux.
Ouais, c'est ça.
Tes intuitions, entre guillemets, sur ce que tu trouves intéressant, qui peut-être sort un petit peu de l'ordinaire aussi.
Alors. Moi, j'invente pas la roue, hein, loin de là, mais moi, ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, et on l'a fait avec Visa cet été, c'est un peu le switch qu'il y a aujourd'hui entre créateurs de contenu et marques.
Ah oui, bon, ça, je vais pas te dire le contraire.
Voilà.
Mais on le sent d'ailleurs dans toutes tes OP, que tu as un lien aux sportifs, aux gens qui vivent les choses.
Ouais, en fait, je trouve que les marques doivent avoir un peu d'humilité quant à la relation avec le créateur de contenu qui aujourd'hui est devenu lui-même une marque. Il y a un rapport de force, en fait, que moi j'observe de plus en plus, qui est de dire aujourd'hui, tu bosses avec un créateur de contenu qui est une marque média parce qu'il a, il peut avoir des centaines de milliers, des millions de personnes qui vont le suivre. Et ce créateur-là peut te dire, bah, en fait, ça, je ne suis pas à l'aise. Mmh. Je vais pas le faire comme ça, je vais le faire à ma sauce, faites-moi confiance. Et en fait, c'est pas évident.
Parce qu'en
en tant que marque, on n'est pas forcément à l'aise dans les univers sur lesquels tout n'est pas cadré.
Bien sûr.
Ça vaut aussi pour les live streams, par exemple.
Elle nous a dit comme toi, Florence de la dire comme de Crédit Mutuel, on a parlé de ce sujet spécifiquement,
ouais.
Et elle parlait justement, d'ailleurs moi je pense qu'on va être raccord, que sur l'influence, qui est d'ailleurs un mot un peu galvaudé, je préfère content maker, créateur de contenu, que tout l'enjeu, c'est aussi bah, évidemment le script. Nous, on est de l'école du script. Moi, forcément, j'adore le cinéma et je pense que je suis de l'école du scénar, même quand on fait du content, et que l'écueil un peu des Instagrammeurs, des machins, où juste je me mets dans ma chambre, je te fais le truc, ça ne va plus suffire.
Non,
donc, il va falloir, comme tu dis, bah, créer des bons formats. Les marques aussi, elles veulent aussi un petit peu, sans forcément tout verrouiller, bah, savoir dans
c'est
quel
normal.
Type de format tu emmènes. Donc, c'est là où tu vois, tu penses qu'il va y avoir une nouvelle brèche là-dedans, en tout cas.
Ouais, en fait, tu peux le faire sur des vidéos enregistrées, scriptées, etc. Ça, c'est du classique, mais sur cette dimension du live, en fait, quand on regarde les gros créateurs de contenu, sans les nommer, ils parlent du sponsoring de la vidéo, mais ils le parlent à leur sauce. Ils ont évidemment des éléments de langage, mais ils le disent à leur manière. Et je trouve que c'est important de pouvoir avoir de la maturité là-dessus. Et c'est aussi vertueux parce qu'en fait, l'audience, elle est habituée à ces figures-là et elle est habituée au sponsoring de vidéos. Moi, j'ai deux enfants. Ils ont YouTube. On regarde parfois des vidéos ensemble. Et en fait, c'est pas un sujet. C'est-à-dire que la marque grâce à laquelle la vidéo existe, bah, ça choque moins que ce tunnel publicitaire qui vient rompre ta vidéo.
Là, on est dans un raccord sur le pur brand content. La définition que je donne, c'est que c'est effectivement les gens regardent des contenus qui sont vraiment intéressants, qui sont un peu plus dans leur centre d'intérêt finalement, parce qu'on est plus passionné de ça que, comme tu dis, de voir l'énième film publicitaire. Et la marque finalement est discrète, mais comme elle est associée à un truc génial, bah, l'effet, il est décuplé.
C'est ça.
Bon, ce qui après, pas toujours facile. Ça dépend des marques qui ont cette culture. Parce
qu'il y a
malheureusement encore trop le réflexe du produit et de « Ah bah oui, je veux tout contrôler, nanana. » Donc,
c'est
ça
un
dépend
vrai
des personnes,
ouais.
Tu vois. Ça dépend des marques, des territoires aussi peut-être.
Alors tu sais, nous, Visa est une marque immatérielle, entre guillemets. Donc, c'est aussi pas évident. C'est pas un produit à afficher. On n'est pas, pas une bouteille, on n'est pas une boisson, on n'est pas une coque ou que sais-je. Mais je trouve que c'est intéressant de travailler ces nouveaux modes de communication. Et peut-être le dernier exemple, et bon, j'ai pas eu la chance de le faire, mais c'est un peu un fantasme, mais c'est le documentaire.
Ah oui, alors ça, c'est encore top.
Et ça, je trouve ça très très intéressant. Alors, je pense que vendre
Nike,
en interne,
Nike en a fait, ou les Vuitton,
c'est pas donné à tout le monde.
Voilà.
DS l'a fait sur l'art du voyage aussi, mais c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse intellectuellement pour voir comment les marques peuvent aller raconter, se mettre à nu dans un documentaire.
C'est vrai.
Encore une fois, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est un moyen d'expression, je trouve, qui mérite d'être creusé quand l'occasion se présente.
Bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout que les docus, je trouve, deviennent de plus en plus prestige. Les plateformes ont mis quand même en avant des docus qui sont parfois projets assez fous.
Ouais.
Et c'est vrai que souvent, je me dis que des marques qui seraient intelligentes, qui s'associent, tu peux faire avec des beaux portraits, plein de choses à faire.
Ouais, c'est,
sur des beautés, des beaux sujets, des thématiques.
Ouais.
Et voilà, bah, écoute, on est raccord. En tout cas, sur l'histoire des passion points, des centres d'intérêt, on sent que tu as vraiment cette connexion qui est dans l'âme de Visa aussi. C'est vrai que nous, moi, j'avais beaucoup retenu ça parce que j'avais eu la chance d'interviewer le Dear Market de Pepsi.
Ouais.
Et même, on avait travaillé avec Samsung. Et souvent, j'avais remarqué que les marques les plus fortes connectent tout de suite au centre d'intérêt, aux passion points. C'était le cas de Red Bull, notamment, évidemment.
Ouais.
Mais c'est ce qu'on retrouve dans ce que tu dis, finalement. À travers le sport, l'apnée, des vrais créateurs. Voilà, c'est intéressant.
C'est un alignement qui n'est pas évident à aller chercher, mais en fait, c'est la composante de tout un écosystème de gens, en fait, et de personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, évidemment, la marque est en premier lieu, mais les agences, les boîtes de production, les créatifs, les gens du média, c'est ça que moi, j'aime beaucoup dans ce métier. C'est comment on arrive à donner vie à ce genre de projet en partant d'un simple brief papier, plutôt électronique. Mais voilà, c'est ça, moi, qui m'intéresse dans les métiers d'aujourd'hui.
D'accord. Donc, l'IA, pour toi, c'est un outil, mais ça ne remplacera pas la créativité, je dirais,
en fait,
à l'ancienne. En deux mots, hein, mais...
Non, non, mais je me suis posé cette question-là et j'ai demandé à mes anciens copains d'EA, enfin mes anciens copains, mes anciens collègues d'EA qui sont toujours mes copains, mais les gars, en fait, vous êtes en danger. Et en fait, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit que ça allait juste leur faire gagner un temps inestimable.
Et bah, c'est bien qu'ils aient répondu comme
donc,
ça.
Donc c'est rassurant et l'IA, on doit composer avec. Encore une fois, on n'en est qu'au balbutiement, je pense. Oui. Mais tu vois, un mid-journée va te faire gagner énormément de temps quand tu dois faire la déclinaison d'un concept, par
bien
exemple.
Sûr. Enfin, je trouve ça n'empêche pas la créativité à d'autres endroits stratégiques de tomber la bonne idée.
Le cérébral sera oui. toujours, pour moi, irremplaçable. Donc, c'est la sensibilité aussi qui ne peut pas être artificielle.
On est d'accord. Et d'ailleurs, on a eu la masterclass de Guillaume Besson en IA et c'est très intéressant. Il était un peu d'accord avec tout ça. D'ailleurs, même lui qui étudie le sujet. Parce que souvent, l'IA, finalement, c'est les réponses, mais ce n'est pas forcément les questions.
Ouais.
C'est ça aussi le sujet. Alors, toute dernière partie du podcast, c'est tes goûts. Alors, c'est la question que je pose toujours aux invités en matière de création. Si tu l'as écouté, tu sais un peu que c'est la question qui va arriver.
Ouais.
Donc, ces goûts en matière de ciné, série, BD, musique, voilà. Deux, trois créations qui t'accompagnent, récentes ou de tout temps, je dirais.
Alors, je vais... En fait, une de mes pubs préférées, c'est Don't Make Things in October.
Oula.
C'est une très vieille pub.
D'accord.
Qui date des années 80, je crois, ou 80, 80, 90. C'était pour une chaîne américaine. Et en fait, tu as des situations ubuesques où tu as un mec qui vient acheter un matériel de jardin.
Ouais.
Et en fait, le mec teste le truc et le truc part en lambeaux et à deux doigts de faire brûler le magasin.
Okay.
Donc ça, c'est la première scène. Et la seconde scène, tu vois les ouvriers qui sont à la chaîne, qui sont en train de fabriquer le produit.
D'accord.
Sauf que tu vois leurs mains et en fait, les mecs sont en train de regarder le Super Bowl sur la chaîne et qui est en octobre. Et donc, en gros, c'est n'achetez pas les produits qui sont faits en octobre parce que les mecs qui sont en train...
D'accord.
De fabriquer ces produits-là, ils sont juste en train de regarder le Super Bowl.
Une bonne chute. Et ça, c'était pour qui alors ? C'était pour Super Bowl ?
Non, c'était pour une chaîne de télé.
Chaîne de télé.
J'ai plus le nom en tête.
ESPN ou un truc comme ça.
Ouais, c'était un truc comme ça.
Qui à la Ricken, quoi.
Et ça, personnellement, j'adore.
T'as trouvé ça un peu coup de poing, quoi.
Ouais, moi, c'est ce qui me marque en fait. Et c'est drôle, c'est juste. T'as un saut créatif qui moi me parle énormément. Et puis après, c'est un peu plus subjectif, mais j'ai eu la chance de bosser pour Monoprix pendant 5 ans, à la belle époque,
on les adore.
Avec les Bayadères. Je bossais avec Rosa Parks, on s'est éclaté avec World Song, qui est une des campagnes que moi j'ai beaucoup, sur laquelle j'ai beaucoup aimé travailler. Aussi les chaussettes, pareil, c'était Monoprix qui lançait 3 chaussettes, parce qu'on en perd toujours une. Donc c'est ce genre de campagne, moi j'aime beaucoup les campagnes un peu qui vont chercher le petit sourire, la petite connivence, le petit sentiment positif. Donc moi c'est ce genre de campagne qui me parle en fait.
Ouais. Et un film ou une série peut-être ?
Compliqué.
C'est dur là ?
Ouais, évidemment moi c'est Dark sur Netflix, parce que je suis passionné de l'écriture.
Okay.
Et en fait,
t'écris toi un peu, t'écris.
Alors, j'écris, je joue.
Un petit roman en préparation.
Non, c'est plus de la fiction. En fait, je suis passionné de cinéma. J'ai eu la chance de collaborer sur des courts métrages.
Pas mal.
Et ouais, je suis passionné de.
T'as
cinéma.
Des petits scripts sous le manteau un peu.
J'ai un fichier Evernote avec une quinzaine d'idées.
Ah bah voilà.
Mais bon, faut du temps pour les développer.
Ouais, je te confie.
Mais Dark en fait, parce qu'en fait c'est la seule série sur laquelle j'ai mis pause, j'ai mis rewind pour vraiment comprendre ce qui se passait réellement dans la série. Donc c'est une succession d'époques où.
Bah Dark. Okay.
Voilà, c'est sur Netflix, c'est génial, c'est une série allemande, c'est super.
Ok, parfait.
Et puis voilà.
Peut-être un film qui t'a marqué, peut-être les derniers mois ou années, ou un truc qui t'a vraiment. Là, j'ai vu Anatomie d'une chute, ma
semaine. Alors, c'est Darkwater, moi, qui m'a.
Darkwater,
j'ai adoré. Alors, j'aime bien tout ce qui est non happy ending, en fait. J'aime pas quand il y a des
happy ending. On sent que t'es assez coup de poing, toi.
Ouais, ça me saoule quand je suis... Même dans les jeux vidéo, je suis dégoûté quand il y a un happy ending. Je suis dégoûté quand tout le monde reste vivant.
T'es pas en mode bisounours, t'es plus en mode
non,
David Fincher, quoi.
J'aime bien ce côté un peu réaliste. C'est Darkwater qui m'a donné des frissons parce que c'est un vrai scandale. Et, et c'est magnifiquement incarné. Mais voilà. Et puis après, mes courts-métrages, en tout cas, c'est Grand Gaillard, avec qui a été réalisé par Samir et Chamarag, qui ont écrit et réalisé ce court-métrage, qui a été shortlisté dans 50 prix dans le monde.
Ah, bien.
Et c'est une autoproduction. On a fait ça avec les amis, avec des professionnels.
Ah bah, t'es un vrai passionné. Passionné. J'ignorais, là, tu nous apprends un truc.
Voilà.
Et la toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans le brand content. Allez, on va dire à côté annonceur et agence, finalement, ce que tu as vécu, toi, ce que tu as appris côté un peu humain et que tu peux transmettre.
Alors, la première chose, c'est la curiosité.
Oui, ça revient souvent.
Il faut être curieux, il faut se faire violence dans l'ouverture un peu aux disciplines, aux centres d'intérêt, etc. Mmh. Et la seconde, c'est pas forcément lié au brand content, mais c'est d'être hybride. Mmh. En fait, on est sur des métiers aujourd'hui qui ne sont plus monolithiques. Créa média, ça va ensemble. Il faut comprendre la créa, il faut comprendre le média. Mmh. Et on ne peut plus exister, on ne peut plus durer sur
une seule facette.
Média, créa.
On l'a senti dans ton parcours d'ailleurs, parce que vraiment entre le brand, le média, le créa, l'idée, le storytelling, c'est vraiment un brassage, mais avec une forte composante créative qu'on sent quand même.
Ouais, mais qui arrive un peu sur le tard, mais qui était en moi. Mais c'est ce côté en fait. L'hybridation est obligatoire. Mmh. Voilà.
Ouais, c'est vrai. C'est dans un monde d'hybridation, finalement.
Ouais, mais c'est enrichissant et c'est ce qui va aussi faire évoluer les personnalités et les gens.
Et écoute, Fouad, c'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast. Merci à toi.
Je te remercie beaucoup. Et puis, c'était un grand plaisir. C'était mon premier podcast. Et puis, j'en souviendrai.
Allez, merci.
Merci, Alexis.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.